RCF.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Effervescence. J'espère que vous allez bien. Nous, forcément, ici, on est ravis de vous retrouver pour partager avec vous ce qui nous a touchés, émus, émerveillés, ce qui nous a fait sourire, ce qui nous a permis de regarder d'un autre œil ce monde si compliqué. Tenez, moi, cette semaine, j'ai eu la chance de visiter l'exposition sur Germaine Richier à Beaubourg. Allez-y, hein. On en a déjà parlé ici, c'est l'une des plus belles expos de ces derniers mois. Ses sculptures, mi-hommes, mi-végétales, ses femmes à secte sont de toute beauté. Et puis pour les croyants, hein, ils ne pourront être que sensibles à ce Christ que Beaubourg présente dans une sorte de petite chapelle. Allez-y donc, mais avant, faites des économies. 17 euros pour un lieu public, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est beaucoup trop cher. N'est-on pas en train de sélectionner son public en pratiquant une telle politique tarifaire? Alors bien sûr, c'est gratuit pour les moins de 18 ans, mais ensuite, pas de répit pour les étudiants. Jusqu'à 25 ans, c'est 14 euros. Soyons sérieux. Allez, je me calme. Je vous présente mes invités, mes chroniqueurs. François Huguenin est avec nous depuis Fontainebleau. Bonjour François.
Bonjour Stéphanie, bonjour à tout le monde.
Notre cinéphile préféré a vu le dernier film de Sam Mendes et nous verrons que ce n'est pas un hasard. Et puis avec vous, François, vous avez comme à chaque fois une pépite musicale dans votre panier. Valérie Marniac, bonjour.
Bonjour Stéphanie.
Vous aussi, vous êtes allée au cinéma. Je verrai toujours son visage vous a enthousiasmé. Et puis vous nous parlerez de photos en noir et blanc avec le travail d'Eliott Erwitt exposé actuellement au musée Mayol. C'est à Paris. Et puis à Marseille, Michel Taddeï est avec nous. Bonjour Michel.
Bonjour Stéphanie, bonjour à tous.
Vous allez nous parler de la fondation de votre ville préférée, Marseille, et du retour à Cézanne, dans une autre ville que vous affectionnez, Aix-en-Provence. Voilà, des chroniqueurs qui nous promettent du cinéma, des expos et de la bonne musique. On peut commencer Effervescence.
Effervescence, une émission présentée par Stéphanie Gallet.
Ce mercredi avait lieu la remise du prix Croire au cinéma. C'était à Paris, au cinéma Les Sept Parnassiens. Un prix, le prix Croire au cinéma, dont RCF est partenaire depuis le début. Et on n'en est pas peu fiers, d'autant plus que cette année, l'heureux lauréat de cette troisième édition était La nuit du 12 de Dominique Moll. Alors vous me direz qu'une pluie de prix est déjà tombée sur ce film, dont le César du meilleur film. Oui, mais c'est le prix Croire au cinéma qui a débuté en janvier, qui a ouvert le bal de cette incroyable reconnaissance. La nuit du 12, c'est une plongée au cœur d'une brigade de police judiciaire. Un portrait de flic qui, en ces temps de violence, nous réconcilie avec la police. Un portrait sensible qui montre ces hommes dans toute leur humanité, avec leurs failles, leurs doutes et leurs envolées. Un film qui montre comment un crime non résolu peut hanter un enquêteur. Mercredi soir, après la projection, Dominique Moll est monté sur scène avec une partie de son équipe pour expliquer, avec beaucoup de modestie, comment il avait voulu, sans faire de ce film un manifeste, approcher la violence des hommes envers les femmes, comment il avait cherché à ne pas faire un constat désenchanté de cette réalité, mais bien au contraire à faire l'éloge de la persévérance, un encouragement à ne jamais abdiquer face au mal. La nuit du 12, grâce à des dialogues ciselés, grâce à la justesse des comédiens et surtout grâce à une fin en forme d'échappée lumineuse, méritait bien le prix Croire au cinéma.
Alors je crois que pour Vernet et pour moi, le voyage était plutôt une façon de vivre, un mode de vie plus intense et plus lyrique que la vie sédentaire, mais qui n'est pas la négation, qui n'est pas le contraire de la vie sédentaire. C'est un, pour nous, le voyage était un catalyseur, si vous voulez. On se déracine, on coupe ses attaches, on devient plus vulnérable, on devient plus mobile, on est obligé de s'engager chaque jour, on est beaucoup plus réceptif et on est mieux à même de faire le point aussi, c'est-à-dire d'éprouver les choses par rapport à soi et non pas par rapport au milieu qui vous abrite ou au cadre qui vous détermine. On ne peut pas comprendre les gens si on ne partage pas entièrement leur vie, côté positif et côté négatif. Et je crois que dans le mode de voyage que nous avions adopté, où nous étions assez soumis aux accidents, aux impedimenta, aux avatars de toutes sortes, ça nous mettait aussi davantage à même de comprendre les difficultés des gens que nous côtoyons, parce que nous étions en situation d'éprouver les mêmes, soucis d'argent, soucis de santé.
Voilà, Nicolas Bouvier, en 1963, sur une télévision suisse, alors qu'il vient de publier, avec le peintre Thierry Vernet, « L'usage du monde », récit d'un voyage effectué par les deux amis de la Yougoslavie à l'Afghanistan, entre juin 1953 et décembre 1954, c'était bien avant les beatniks, hein, alors que Nicolas Bouvier a à peine 25 ans, voyage qu'il continuera seul ensuite. Nicolas Bouvier n'arrêtera jamais de voyager, parcourant le monde avec sa famille, en Asie surtout, mais aussi en Europe. Il s'est éteint il y a 25 ans, le 17 février 1998, mais il continue de vivre, bien sûr, à travers son œuvre, lue et célébrée dans le monde entier. « Un voyage se passe de motifs », écrivait-il dans son livre « L'usage du monde ». Il ne tarde pas à prouver qu'il se suffit à lui-même. On croit qu'on va faire un voyage, mais bientôt, c'est le voyage qui vous fait ou vous défait. L'usage du monde va profondément renouveler le genre de la littérature de voyage. Il va devenir un livre culte et inspirer ensuite toute une génération d'écrivains voyageurs. Alors vous, de l'autre côté du poste, vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi est-ce qu'elle nous raconte tout ça? Bah parce qu'un film à l'affiche en ce moment met à l'honneur l'un des héritiers de Nicolas Bouvier, Sylvain Tesson, dont on avait beaucoup parlé pour son documentaire La Panthère des Neiges, et qui revient sur le devant de la scène avec, au cinéma, Les Chemins Noirs, un film adapté de son récit autobiographique, où on le retrouve porté à l'écran par Jean Dujardin, qui bat tous les records au box-office. On écoute la bande-annonce.
Jacques, un dernier verre!
Oh, c'est malin!
Pierre! Non, non! Pierre! Pierre!
J'étais tombé du rebord de la nuit, m'étais écrasé sur la terre. Il avait suffi de 8 mètres pour me briser les côtes, les vertèbres, le crâne. Quand c'était dans un lit, je m'étais dit à voix presque haute. Si je m'en sors, je traverse la France à pied. Si je réussissais ma traversée, j'obtiendrais réparation.
Je vais partir du sud-est, en direction de la Manche, jusqu'à la mer.
Pierre, c'est de la folie, t'en as conscience.
Oui, mais si je pars pas, je pète les plombs.
T'as plus de 1000 bornes, là.
1003.
Voilà, sur les chemins noirs. Valérie, vous allez nous parler des chemins noirs et de ce Tesson du jardin. Et puis ensuite, je demanderai aux autres quels sont les écrivains voyageurs qui les inspirent. Alors, ce film, ça vous a...
Alors, en tout cas, déjà, c'est une adaptation, on va dire, quand même réussie, parce que c'est vrai que quand on pense écrivain voyageur, on pense pas forcément tout de suite cinéma, même si le road movie, c'est un genre cinématographique en soi. C'est vrai que les écrits de Tesson, c'est quand même plus, celui-là en plus particulièrement, plus introspectif, contemplatif. Donc, le film pourrait être très ennuyeux, ce qu'il n'est pas. Donc en deux mots, peut-être le pitch où tout le monde connaît le...
Non, voilà. On l'a entendu, il y a un accident.
C'est ça. En fait, ça raconte sa propre histoire quand même. Donc, oui. Et il a écrit ce livre juste après sa chute qu'il a laissé briser et quelques jours dans le coma. Il s'est dit que s'il pouvait remarcher, il traverserait la France du sud-est au nord-ouest, donc la fameuse diagonale du vide. Donc il est parti du Mercantour jusqu'à la pointe du Cotentin. Ce qu'on voit dans le film, alors ce qui est réussi dans le film, pour parler du film, c'est que justement il dose bien la partie un peu voilà ce qui lui arrive sur le chemin, sa vie d'avant, parce qu'il y a quand même tout
des flashbacks,
quelques flashbacks pas trop longs et qui sont aussi bien dosés. Les rencontres qu'il fait sont assez amusantes. Ils ont en fait en filmant, ils ont rencontré des vrais gens en France et pour certains qu'ils ont gardé à l'image. Donc ça c'est plutôt réussi et plutôt sympathique. Jean Dujardin en fait pas trop dans le côté justement un peu ermite solitaire, misanthrope que peut parfois paraître l'écrivain. Donc tout ça est plutôt réussi. Pourquoi on passe un bon moment? Parce qu'on traverse quand même de beaux paysages, hein, donc c'est un voyage. Ça fait pas trop carte postale, même s'il y a quelques moments.
Un peu cliché.
Selon votre connaissance de la France, si vous connaissez bien une région, quand même, c'est parfois il y a quelques. On se demande. Enfin, ils sont allés en voiture hein, d'un endroit à l'autre. Il n'a pas fait les 1300 km Jean Dujardin, hein, donc. Mais bon, il y a quelques très belles régions traversées. Le film aussi. présente quand même, c'est un peu le thème, hein, un chemin de rédemption, mais pareil, n'en rajoute pas trop sur le côté...
spirituel
Alors spirituel, pas du tout. D'ailleurs, c'est presque un peu la limite du film, moi, je trouve. Alors, allons aux petits défauts que j'ai. C'est que on passe un bon moment, mais à la fin, on se demande un peu...
Tout ça pourquoi ?
Voilà. Où est-ce qu'il nous emmène ? Alors certes, il nous emmène dans le Cotentin. Le dernier plan est assez beau. Mais ça reste effectivement assez égocentré quand même. Alors c'est un peu ma limite.
Qu'est-ce que ça nous dit de Sylvain Tesson et de l'écrivain voyageur ?
Alors quand même... Ce qui est magnifique dans le film, c'est son texte. Parce que, alors, tout ça pour ça, quand même, s'il y a une réponse, il y a un magnifique livre, quand même. Et moi, je suis sortie du film en me disant ça, en me disant, j'ai envie de relire ce livre. Parce que, on peut en voix off, qui est...
On entend la voix de Sylvain Tesson en voix off?
Non, c'est Jean Dujardin qui l'a dit, voilà. Très bien, mais on entend le texte, qui est quand même un très beau texte. Et donc, ça nous donne envie de partir marcher et de lire le livre, ce qui est déjà...
C'est pas mal,
ça, bien pour un écrivain voyageur. Voilà.
Donc, Le mythe de l'écrivain voyageur, ça, c'est quelque chose qui est quand même un récurrent dans la littérature et même dans l'imaginaire culturel le français. Comment vous le comprenez, vous, François ?
Je crois que c'est vraiment quelque chose qui est pas seulement français d'ailleurs, qui est inséparable de la littérature. C'est-à-dire que la littérature, notamment au 19e siècle et au 20e siècle, mais ça commence, je crois, beaucoup au XIXe siècle, est absolument inséparable de ces voyages initiatiques qu'on fait très souvent en Italie, bien sûr, quand on est français, ou quand on est anglais en France et en Italie, dans ces pays qui regorgent de beauté, d'œuvres d'art. Voilà, c'est l'écriture, c'est inséparable de ces grands déplacements, de ces grands voyages où les écrivains ont nourri leur imaginaire et on fait souvent ensuite des textes absolument fabuleux. Bon, on connaît Stendhal, hein, les promenades de Stendhal, mais il y a toute une tradition ensuite qui s'est développée et qui s'est continuée au XXe siècle. Et moi, je trouve que ça donne des livres absolument savoureux et géniaux. Et j'aime autant lire des récits de voyage sur des lieux que je connais que sur des lieux que je ne connais pas du tout.
Michel, vous aussi, vous êtes une amatrice de littérature de voyage ?
Amatrice, c'est peut-être beaucoup dire, parce que je trouve que ce qui est intéressant dans le récit de voyage, c'est que l'auteur au départ part pour visiter, pour découvrir, pour peut-être enrichir ses connaissances, mais finalement c'est lui qu'il va découvrir au retour. Et c'est ça qui est intéressant, c'est cette démarche-là qui n'est pas volontaire, puisque souvent l'écrivain part à la recherche de quelque chose et c'est lui qui le trouve. Et ça, je trouve que c'est intéressant dans le récit de voyage. C'est cette dimension-là qui m'intéresse.
On va écouter Sylvain Tesson. Il nous parle de s'abandonner à vivre.
S'abandonner à vivre, ça veut dire que voilà, la vie étant absurde et cruelle, il vaut mieux ne pas trop lui résister en essayant de corriger... cette impossibilité totale de décider de sa vie par un grand appétit de l'existence.
Voilà, sur les chemins noirs de Sylvain Tesson avec, bien sûr, on l'a dit...
Jean Dujardin.
Voilà, merci, je vous fais participer.
Mais oui.
Allez Michel, vous nous rappelez qu'un des grands écrivains voyageurs, on a cité Stendhal, mais c'est aussi Chateaubriand.
Et oui, et alors Chateaubriand est important dans la grande lignée des écrivains voyageurs, parce que c'est à partir de son itinéraire de Paris à Jérusalem, qui a été publié en 1811, mais qui retrace un voyage qu'il a fait entre 1806 et 1807. Il était parti pour un court voyage. En fait, ça a duré longtemps parce qu'il est resté en panne de bateau en Égypte. Mais bon, ça, c'est autre chose.
Ça arrive.
Et Chateaubriand a fondé quelque chose qui a inspiré après tous les auteurs, tous les écrivains voyageurs, que ce soit Bouvier, par exemple, ou Tesson, on peut retrouver ça chez eux. C'est ça qui est très étonnant, c'est que il ne part pas dans l'idée de rapporter quelque chose, même s'il voulait aller aux sources de la chrétienté et de la royauté, ce qui est très étrange dans ce dans cet itinéraire, mais on se rend compte à travers ce récit que c'est toutes les figures de l'écrivain qui sont convoquées. Et à travers toutes ces figures, il y a la complexité de Chateaubriand, qui n'est pas juste le romantique échevelé que parfois on présente. Dans tous ces écrivains et ces voyageurs dont il parle, et il parle à travers eux de lui, il y a le soldat, le missionnaire, le marchand et le marin. Et Chateaubriand en marin, ben c'est presque une évidence, hein, quand on sait que la Bretagne lui collait aux Basques et que la mer était un de ses sujets de méditation favoris. Et il ne part pas pour justement finalement retrouver les racines chrétiennes qu'il était parti chercher, mais il en revient avec des choses inattendues et qui vont dépasser peut-être tout. Il fait même le touriste alors qu'il n'était pas parti pour ça, puisque comme tous les touristes de cette époque, il ramène un petit bout du Parthénon. Bon, c'est comme ça que le Parthénon se retrouve encore plus en ruine que ce qu'il était. Et en 105 jours, pardon, pas 500, mais 105, il visite l'Italie, la Grèce, la Turquie, la Palestine. Et puis là, il s'arrête parce qu'il voulait rentrer. Et il passe 128 jours en Égypte. Et après, pour attendre un bateau qui le conduira à Algeciras et en France. Et tout ça fait que Chateaubriand est le fondateur d'un certain récit de voyage qui continue à inspirer les écrivains d'aujourd'hui.
Michel, vous vouliez aussi nous parler d'une femme, parce que dans les écrivains voyageurs, il y a quelques femmes, et parmi eux, il y a Alexandra David-Nel, et elle n'est pas très loin de chez vous.
Enfin, elle est née à Digne-les-Bains, hein, donc la capitale de la lavande dans les Alpes de Haute-Provence. Elle est née à la toute fin du 19e siècle, hein. Elle est née en 1868 et elle est morte en 1969. Donc, elle a vécu quasiment 100 ans, un tout petit peu plus même. Alors, quand on lit sa biographie, on découvre qu'elle est orientaliste, tibétologue, chanteuse d'opéra, féministe, journaliste, anarchiste, exploratrice, franc-maçonne, enfin elle est tout ça. Elle a eu le temps d'en faire des choses en 100 ans de vie, mais elle a surtout été une des premières et la première femme à aller au Tibet en se déguisant en homme. Elle s'était noircie, pardon, elle s'était noircie le visage, elle s'était fait des tresses, enfin elle était tout à fait méconnaissable. Et là, elle a rencontré une civilisation et des gens, et surtout un homme qu'elle a ramené dans ses bagages. De tout ça, elle a écrit des récits. Vraiment, là, ce sont des récits de voyage, mais pas que le voyage. Elle a réfléchi aussi sur la place des femmes dans ces civilisations, sur la politique, sur. Enfin, elle a abordé une infinité de thèmes. Et par exemple, elle écrit le féminisme rationnel. Elle écrit le modernisme bouddhiste. C'est toujours inspiré, bien sûr, par son voyage au Tibet, mais ça aborde une foultitude de thèmes. Et pour ça, c'est encore un aspect du voyage. C'est-à-dire que le voyage, c'est pas juste le récit de son séjour au Tibet, mais c'est une réflexion sur la société d'aujourd'hui, entre la comparaison entre l'Orient et l'Occident.
Moi, ce qui me fascine chez Alexandra David-Nel, c'est que, bien sûr, c'est une des premières européennes à rentrer au Tibet. Mais quand elle arrive au Tibet, quand elle fait ce voyage, elle a 50 ans passés, comme quoi tout est possible. On va écouter un extrait d'Alexandra David-Nel. Elle s'exprimait, c'était quelques mois avant sa mort. Vous savez que quelques mois avant sa mort, elle avait fait une demande de renouvellement de passeport. Elle se prêtait encore à voyager à plus de 100 ans. Et elle revient sur les raisons de son goût du voyage. Et ça remonte à la toute petite enfance. Écoutez bien.
Je vous dis que j'ai quitté ma famille à 5 ans parce que je voulais voir ce qu'il y avait dans le bois de Vincennes. Voilà, je me suis sauvée. Et puis alors après ça, quand j'étais plus grande, je me suis sauvée davantage pour voir ce qu'il y avait plus loin.
Voilà, on remercie le site de l'INA qui nous permet de trouver ces pépites. François, vous souhaitiez nous parler d'un auteur dont j'avoue j'ignorais tout avant l'émission, André Suarez, qui écrivit le voyage du condottiere. Du Condottiere, un ouvrage publié en 1932, puisque c'est un voyage en Italie dont il s'agit.
Oui, Suarez, évidemment, on l'a un peu oublié, même beaucoup, et à tort. Suarez, d'abord, c'est une silhouette. Il portait une longue houppelande, il avait toujours sur le chef un feutre au large bord. Il avait des cheveux longs extrêmement romantiques. C'est un homme qui est né en 1868 à Marseille. Ça arrive à des gens très bien. Il est monté à Paris pour faire la rue d'Ulm. Il s'est passionné pour Wagner depuis l'âge de 10 ans. C'était un écrivain et un voyageur. Et il a écrit ce voyage du condottiere qui est son voyage, ville après ville, en Italie. Et plutôt que de discourir longtemps, je voudrais vous citer deux extraits. Un d'admiration et un de détestation, parce qu'on peut aussi détester quand on voyage. Alors, l'extrait d'admiration, c'est une des villes italiennes que je préfère, c'est Sienne. Alors, Sienne, voilà ce qu'il écrit. Quelle ville est plus femme que Sienne ? À l'égal de Florence, à l'égal de Paris, tout y parle de l'homme. Tout est de lui, sa volonté, sa foi, ses passions, ses furies. Chaque pierre a une histoire. De rue en rue, les siècles se touchent et se racontent. Sans effort, toute maison est un palais. Ce qu'on ne sait plus, on l'imagine. La ville de la Vierge est pleine d'églises. On en visite 30, on en connaît 50. Peut-être sont-elles plus de 100. L'art qui est la marque du poète et de l'homme sur le flot, le sceau de la durée sur ce qui passe, l'art a pris possession de Sienne comme d'aucun autre lieu du monde. C'est beau quand même.
C'est magnifique.
Voilà. Et... Mais en revanche, Suarez est capable de coups de patte assez incroyables et même de coups de patte du genre déboulonnage de statues ou en tout cas de tableaux. Vous connaissez tous le fameux tableau de Léonard de Vinci, la Seine, qui est à Milan, à Sainte-Marie-des-Grâces. On le connaît tous, on l'a vu, il est montré en exemple. Eh bien, Suarez... n'est pas tout à fait de cet avis, et regardez ce qu'il nous dit, que ce Christ est pauvre, que sa beauté est nulle, doucereuse, et vraiment faite pour enlever tous les suffrages. Ni homme, ni Dieu, il n'est que fade. Léonard de Vinci y fait la confession d'une grandeur et d'une défaite égale, un amour de la perfection beau comme elle. Mais il reste en deçà de la victoire, et c'est non pas qu'il faut être parfait, mais qu'il faut atteindre la vie. Et voilà, l'art, c'est la vie. Et quand Suarez se trouve devant cette scène de Léonard de Vinci qu'il trouve sans vie, eh bien, ce n'est plus de l'art pour lui. Alors qu'il admire Vinci. Donc, vous voyez, c'est magnifique quand même.
Étonnant personnage que cet André Suarez. Merci François. Et puisque nous étions en Italie, eh bien on y reste avec un chanteur que j'affectionne tout particulièrement, un chanteur à la notoriété, disons relative, des deux côtés des Alpes. Il s'agit de Gian Maria Testa.
Dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti porterei col fazzoletto di cotone e profumo, col fazzoletto ti nasconderei. Dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti nasconderei e con la mano che non veda nessuno e con la mano ti accarezzerei. Salirà il sole del mezzogiorno, passerà alto sopra di noi, fino alla tasca del pomeriggio. Ti porto ancora se ancora mi vuoi. Salirà il sole del mezzogiorno e passerà alto molto sopra di noi, fino alla tasca del pomeriggio. Dall'altra tasca ti porto. Se vuoi. dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti porterei col fazzoletto di seta e profumo, col fazzoletto ti coprirei. Dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti nasconderei, e con la mano che non veda nessuno, e con la mano ti saluterei.
Je te mettrai dans la poche d'un matin, je te cacherai dans un mouchoir de coton et de parfum, et de la main que personne ne voit, je te caresserai. Voilà, c'était Gian Maria Testa.
Effervescence, la culture nous unit sur RCF.
Le cinéma nous réserve toujours des surprises et j'avoue que jamais je n'aurais pu penser qu'il s'emparait de la question de la justice restaurative qui cherche à faire rencontrer des coupables et des victimes pour avancer chacun sur la voie de la réconciliation, pour ne pas dire du pardon, un thème cher aux églises chrétiennes, toujours un peu délicat à manier. Et voilà qu'une réalisatrice passe le pas, c'est Jeanne Henry, elle s'accompagne pour cela d'une pléiade de stars. Valérie, vous avez vu « Je verrai toujours son visage », c'est le titre de ce film et je crois que vous êtes sous charme.
Oui, bah pour effectivement nous passionner avec un dispositif juridique, comme vous le dites, il faut vraiment beaucoup de talent. Et Jeanne Henry, là, en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez de son film précédent, c'était Pupille.
Ah, oui.
C'était déjà avec Gilles Lelouch et c'était sur, pareil, à la fois très émouvant et très documenté. Ça parlait du processus d'adoption en cas d'accouchement sous X. Alors là, effectivement, elle change de registre. Donc ce dispositif donc permet effectivement cette rencontre, mais au bout d'un très long processus, en fait, qui est accompagné par des professionnels et des bénévoles spécialement formés pour ça. Alors dans le film, les acteurs que vous avez cités incarnent plusieurs personnes qui vont donc se retrouver autour d'une table. Quelques histoires quand même qu'on va rencontrer dans le film. Il y a Leïla Bekti qui a été victime d'un braquage dans un supermarché dans lequel elle travaille. Gilles Lelouch, lui, a été séquestré chez lui, le personnage qui joue devant ses enfants pendant un cambriolage particulièrement violent. Et Miu Miu a subi un vol à l'arraché. Elle n'ose plus sortir de chez elle depuis. Alors, le dispositif, en fait, il est vraiment basé sur l'écoute mutuelle, mais, et sur les bienfaits de la parole libératrice, mais tout ça se passe aussi dans un cabinet de psychothérapeute. Et pourquoi là ça va plus loin? C'est parce que justement il permet cette rencontre. Donc c'est une rencontre avec l'autre, et puis avec l'autre, l'agresseur. Alors ils ont pas, c'est pas forcément leur propre agresseur.
Voilà, c'est ça, on rencontre pas son agresseur,
non,
mais un criminel
des
qui
auteurs
a fait
de faits similaires. Voilà. En fait. Voilà, donc c'est quand même la rencontre est quand même assez forte. Donc dans la phase de préparation, c'est vrai que on est assez loin du coup de l'imaginaire qu'on a de la justice. Alors vous l'avez pas dit, mais c'est quand même un procédé assez récent, hein, ça date de 2014 en France. C'est pour ça qu'on en a pas beaucoup entendu parler. Alors pourquoi le film nous captive? Bah déjà évidemment grâce aux acteurs, parce que concrètement, ils sont quand même, c'est des scènes où ils sont autour d'une table et ils parlent, donc c'est quand même pas très cinématographique.
Ça peut être aride.
Voilà. Mais en fait, donc, il fallait des acteurs extrêmement expressifs parce que, en fait, toutes les émotions passent par le visage, par la posture d'un corps. Par exemple, à un moment, il y a Miu Miu qu'on voit qui ose à peine s'asseoir au bord de son siège, le dos complètement raide et sa petite voix fluette. En quelques, voilà, en deux images, on comprend sa situation sans faire de long développement psychologique. Et puis alors il y a aussi un autre cas de figure qui existe, qui est le cas de la médiation, et le film est monté comme ça. On alterne entre ce groupe de paroles dont on vient de parler et un cas de médiation. Alors là c'est Adèle Exarchopoulos qui joue le rôle d'une jeune femme qui apprend que son frère qui l'a agressée sexuellement quand elle était jeune est sorti de prison et va revenir habiter près d'elle, et donc le médiateur va l'aider à accompagner et justement elle veut pas le rencontrer, donc c'est tout ça qui est mis en place.
On écoute la bande-annonce ?
Ouais, très bien.
On écoute la bande-annonce.
Je m'appelle Nassim. J'ai 29 ans.
Vous pourriez nous expliquer un peu comment vous avez entendu parler de la justice restaurative ?
C'est des victimes qui rencontrent des détenus.
Oui, c'est ça.
Ce que vous proposez à ces gens, c'est l'inverse de ce que tout le monde leur a toujours proposé. On ne parle pas à leur place. On ne suggère rien. On écoute. On accueille. Inconditionnellement.
J'aimerais revoir mon frère. J'ai pas envie de le croiser par hasard. Enfin, je veux le voir pour être sûr de pas le croiser par hasard.
J'étais agressée dans le supermarché dans lequel je travaillais à 5 ans. Je suis là pour vous dire ce qui se passe pour les victimes quand vous commettez ce genre de choses.
J'ai 25 ans et j'ai braqué une supérette.
J'ai passé toute ma vie dans le monde des stupéfiants. Ça fait 25 ans que je fais les allers-retours entre la prison et l'extérieur. Je suis plus comme avant. Ma vie est plus comme avant. Et si je résume, avant, elle était mieux.
Voilà, je verrai toujours son visage de Jeanne Henry. Un dernier mot, Valérie ?
Deux jeunes acteurs quand même. Biran Bah, qui est le plus jeune pensionnat de la Comédie française, qui joue le rôle de la détenue et qui est magnifique. Et Souliane Brahim, qui joue le rôle de l'animatrice, qui est aussi très, très exceptionnelle.
On reste toujours au cinéma avec un film sorti début janvier, un film hommage au cinéma et plus encore à la salle de cinéma. Alors François Huguenin, c'est vous qui avez vu Empire of Light. La salle de cinéma dont il s'agit et qui est au cœur du film de Sam Mendes est un lieu magnifique.
Oui, et Sam Mendes est vraiment un cinéaste qui mérite qu'on s'attarde sur sa filmographie. Vous savez qu'il a filmé deux des derniers James Bond, hein, Skyfall et 007 Spectre, et sans doute les meilleurs James Bond jamais réalisés, c'est lui qui les a réalisés. Et il a aussi filmé 1917, qui était un film qui a beaucoup marqué les esprits. Et là, Empire of Light, c'est effectivement un film autour d'un cinéma dans lequel travaillent deux personnes qui vont tisser une relation très belle et en même temps très faite de beaucoup de délicatesse et de fragilité. Hilary, cette femme qui est marquée par une santé psychique fragile, et puis Stéphane, un jeune noir. Et alors on pourrait imaginer que sur un tel thème, eh bien Sam Mendes nous sorte un truc un peu dégoulinant, un grand manifeste antiraciste ou s'apitoyant sur le sort de cette femme, et pas du tout. Ces deux personnages qui souffrent souvent sont lumineux et ils viennent nous prendre par la main, ils viennent nous guider pendant toute cette durée du film, et on ressort de ce film avec eux et avec un amour grandi pour le cinéma, parce que au fond dans ce cinéma il y a la vie, et nous en étant rentrés dans un cinéma pour voir le film de Sam Mendes, on a non seulement vu un très beau film, mais on a peut-être aussi fait un petit pas de plus dans la profondeur de notre existence. Vraiment, je conseille à tout le monde d'aller voir ce film pendant qu'il est encore dans les salles.
How do you feel, generally?
I do feel a bit numb, I suppose.
And you do have people you can talk to, friends.
Why don't you pop into the office for a quick drink?
Stop.
Why? Who's this hurting?
Well, your wife, for one.
Morning, all. Stephen here will be replacing Trevor.
Hello.
This whole place is for people who want to escape. People who don't belong anywhere else.
It really was beautiful.
It still is.
Valérie Marniac, vous aussi, vous avez vu Empire of Light, vous aussi, vous avez adoré le film. Et la musique, vous voulez dire un mot sur
Mais
la musique?
Oui, François, je rajoute quand même la bande-son de ce film qui se passe dans les années 80, dans l'Angleterre thatchérienne. Et on a toute cette bande-son de cette musique avec The Special, The Cure, qui est formidable et qui donne beaucoup de couleurs très...
D'énergie
au film aussi.
Allez. J'ai un peu l'impression que Valérie et moi avons retrouvé notre jeunesse.
Voilà.
Allez, après une déclaration d'amour au cinéma, une déclaration d'amour tout court, elle est signée Christophe Maé, qui signe un nouvel album des plus étonnants. C'est enregistré au Cap-Vert, chez la grande Césaria Ivoria, dans son studio. Hein. Et dans ce morceau, vous allez voir, il est accompagné des stars de Bamako, Amadou et Mariam.
Ça fait rêver les gens, l'amour. Ça donne la vie, le tournis des petits gars qui courent. Ça fait mentir, ça fait du bien tout court. Ça fait pleurer les gens, l'amour. Ça fait sourire, ça fait gémir, ça fait du bien autour. Ça fait changer les gens, l'amour. Ça fait parler, ça fait le vide autour. Ça fait de nous des âmes heureuses. Ça fait de nous des âmes seules. Ça fait de vous des amoureuses. Et de nous vos âmes seules.
L'amour, 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 l'amour.
des kilomètres, ça fait éteindre des abat-jours, ça fait fumer une cigarette, l'amour.
Voilà, j'espère que ça vous plaît. C'est Christophe Maé, Amadou et Mariam, l'amour.
Effervescence, quand la culture fait briller les yeux.
Merci d'écouter Effervescence. Michel est à Marseille, François à Fontainebleau et à mes côtés il y a Valérie. Michel Taddeï, une petite leçon d'histoire avec vous. On va parler des origines de Marseille. Alors moi, j'avais vagues souvenirs d'histoire d'une fondation grecque par quelques héros troyens. Mais en fait, c'est bien plus vieux que ça, c'est ça ?
On ne sait pas si c'est plus vieux que ça. C'est en fait une théorie qui est développée par un journaliste désormais retraité qui s'appelle Gabriel Chakra et qui a publié un ouvrage « Marseille phénicienne, chronique d'une histoire occultée ». Donc, ce dont vous aviez entendu parler, Stéphanie, c'est effectivement la fondation de Marseille, dont tout le monde s'accorde à dire que c'est la plus vieille ville de France. Pour l'instant, on en était resté à fondation dans les années 600 avant Jésus-Christ, par des phocéens venus en bateau et accostant sur le Lacidon. Il y a la légende du mariage entre Protis, la fille du roi qui habitait là, et le beau marin la fille égyptiste et le beau marin Protis. Hein, voilà, Marseille née d'une histoire d'amour. Ça a évidemment fasciné tout le monde. Or, il se trouve que certains pensent que Marseille a été fondée 200 ans plus tôt par des Phéniciens. Tout est parti de la trouvaille d'une pierre gravée au milieu du 19e siècle, juste à côté de la cathédrale de Marseille. En creusant un petit peu, on a trouvé cette pierre d'une écriture totalement inconnue. Ça a été déchiffré. On est arrivé à la déduction et à l'affirmation que c'était de la langue punique de Carthage. Et donc, à partir de là, les imaginations ont commencé à vagabonder. Sauf qu'on l'a très vite enterré, cette histoire Carthage-phénicienne, parce que dire que c'était les Phéniciens qui avaient fondé Marseille, ou qui étaient en tout cas passés par là, ça faisait pas très bien dans le décor. Les Phéniciens étaient connus pour leurs mœurs un petit peu barbares, puisqu'ils pratiquaient des sacrifices humains, ils étaient en admiration devant leur dieu Baal, et donc tout ça, ça faisait pas très très bien, hein. c'était pas franchement sympa de descendre de ces gens-là. Alors Gabriel Chakra, lui, dit que non, c'était bon, ils étaient effectivement un peu sanguinaires, mais bon, bref, et surtout qu'il s'appuie sur ce qui a gravé sur cette pierre-là, c'est le tarif qu'on appelait tarif de Marseille, c'est-à-dire que c'était l'œil pour œil dent pour dent de l'époque, hein, c'était vous avez tué quelqu'un, ça vous coûtera tant, voilà, hein, donc c'était ce qu'il fallait payer aux prêtres qui étaient là pour rendre la justice. Alors, au-delà de cette pierre, Gabriel Chakra a travaillé pendant 50 ans sur cette affaire-là. Il parle aussi de l'étymologie du mot Marseille. Marseille, ça viendrait de Marsa, qui voulait dire port en arabe, et de El, qui voulait dire Dieu. Donc, le port béni des dieux. Bon, sauf que Marseille, ce n'est pas le premier nom de la ville, hein, puisque c'était Massalia. Et donc là, il n'y avait pas de R. Tout ça, c'est un peu, bon, après tout, pourquoi pas, hein, on veut bien le croire. Et surtout, il s'appuie sur le fait que cette pierre était en pierre de Cassis, donc Cassis, patrimoine de Marseille, et que donc, si elle s'est trouvée là, ce n'est pas par hasard, c'est que les Phéniciens l'ont laissée. Donc, de toute façon, tout le monde s'accorde à dire que Marseille est toujours la plus vieille ville de France, mais qu'elle est peut-être plus âgée de 200 ans. Bon, après tout, pourquoi pas. Sauf que les hellénistes sont très en colère contre cette thèse et qu'ils voudraient bien qu'on continue à dire que Marseille est grecque. Bon, on va pas là maintenant déterminer de qui a raison, qui a tort, se décider, choisir entre l'une des deux versions. Mais bon, c'est toujours intéressant d'avoir les deux et donc de lire ce petit ouvrage qui s'appelle donc Marseille phénicienne et qui est publié aux éditions Maya. Si ça vous intéresse, vous ferez votre opinion.
Voilà, et c'est signé donc Gabriel Chakra. Merci, merci. Michel, on a l'habitude dans cette émission de se désaseptiser les oreilles avec les perles de nos chroniqueurs. La semaine dernière, on vous a fait découvrir Flavien Berger. Retour à des sonorités plus classiques cette semaine, mais non moins intéressantes.
Seen school days through September eyes. Could never concentrate, never memorize all the blackboard figures and facts. Oh, how I fell behind. The dreams and schemes and visions of some time. It was what I.
François Huguenin, on vient d'entendre Ron Sexsmith, extrait de son dernier album. C'est pas le premier, hein. C'est une figure bien installée du folk.
Oui, une dizaine d'albums déjà de Ron Sexsmith, qui est un songwriter canadien, qui, album après album, je crois, a développé des œuvres majeures de la pop contemporaine, très inspirée par son héros, l'anglais Elvis Costello, des chansons toujours extrêmement mélodiques, avec des très beaux textes, avec des petites références chrétiennes qui parsèment d'ailleurs son texte. Et là, le morceau qu'on a entendu, hein, qui s'appelait « What I Had in Mind », c'est vraiment de la pop intemporelle, c'est-à-dire que on est un peu plongé dans un bain de John Lennon, et puis on continue la trajectoire jusqu'aujourd'hui. Et c'est joyeux, c'est carré, c'est mélodique, voilà. Et l'album est très beau, il s'appelle « The Vivian Line ». Et Ron Sexsmith, je tiens à le dire, fait une tournée américaine et européenne, et il viendra à Paris au New Morning le 22 mai. Donc,
vous y serez ?
Ah bah bien sûr. J'essaye de ne jamais rater Ron Sexsmith.
On écoute un autre morceau ?
Oui, un morceau que j'aime beaucoup, c'est peut-être mon morceau préféré d'album, c'est le premier d'ailleurs de l'album, qui s'appelle Place Called Love, plus mélancolique, plus balade, qui est aussi un registre dans lequel Ron Sexsmith excelle.
Somewhere in the darkest night there's a place called love. Out there where the hearts are bright is a place called love. Though you won't find it with an old man, no, and those who found kindness never come back. They're in a place called love. Oh. Hold on beyond hard times, there's a place called love. Where the song of the church bell chimes in the name of love, love. Everybody knows the troubles you see. Oh, and people all know what struggling is.
Ron Sexsmith, The Vivian Line, c'est son dernier album proposé par François Huguenin.
Effervescence, Stéphanie Gallet.
Michel Taddeï, le printemps et l'arrivée des beaux jours vous donnent des envies de peinture et de beauté. Et ça tombe bien, puisqu'on nous annonce le grand retour de Cézanne sur Aix-en-Provence. Racontez-nous.
Alors en 2025, Aix va consacrer toute une année à Cézanne. Alors pourquoi 2025 ? Il n'y a aucune raison, ce n'est pas sa date, une année anniversaire. Il est né en 1839 et mort en 1906, donc 2025 n'a strictement aucun rapport. Simplement, c'est le temps qu'il faut pour que la municipalité, atteigne ses objectifs, c'est-à-dire non seulement organiser une grande exposition, mais aussi réhabiliter, réaménager tout le parcours Cézanne, qui est un petit peu pas laissé à l'abandon. Mais bon, on n'a pas fait trop d'efforts quand même pour entretenir certains lieux qu'il a connus, qu'il a peints. On parle pas de Sainte-Victoire, bien sûr, puisque là, il n'y a pas grand-chose à aménager. Mais en tout cas, de la Bastide du Jas, qui est la maison de famille de Cézanne, qui a été vendue et que la ville va à récupérer. On va la réaménager, en faire de nouveaux bâtiments. Il y a une orangerie. Enfin bon, tout ça va déjà être organisé. Il y a aussi son atelier. C'est l'atelier dans lequel il travaillait, bien sûr, mais dont il avait lui-même dessiné les plans. Alors cet atelier va aussi être réaménagé. Il va y avoir à l'intérieur des ateliers pour les enfants, justement. Et puis tous les lieux cézanniens d'Aix. Il y a les berges de la rivière L'Arc, la colline de Valcroze, les carrières de Bibémus, tout ça va être aménagé pour accueillir du public. Bien sûr, il venait le public déjà, mais là, ce sera vraiment balisé. Ce ne sera pas fermé, ça continuera à être des lieux de balade pour les Aixois et pour tous ceux qui le veulent, mais en tout cas, ce sera mis en valeur et ça fera un parcours pour tous ceux qui veulent marcher dans les pas de Cézanne. Cézanne a longtemps été un petit peu méprisé par les Aixois. Hein. Il se trouvait que c'était un régionaliste, que bon, la Sainte-Victoire, ça va, on connaissait, mais bon, il y en avait un petit peu assez. Alors, certains disent que c'est parce que le peintre est devenu très à la mode et que ses tableaux se vendent de plus en plus cher que la ville veut se dire « Ah, mais c'est chez nous quand même, voilà, que tout est parti. » Mais bon, allez, on va pas faire de mauvais esprits. On va dire que tout ça, ça va être l'occasion de voir des œuvres qui ne sont pas exposées à Aix, qui viennent de tous les musées. C'est le musée Granet qui va accueillir la grande exposition de cette année 2025. Il y aura vraisemblablement entre 80 et 100 œuvres qui seront exposées là. Alors le conservateur du musée Granet, hein, Bruno Elie, commence à prospecter parce qu'évidemment il faut organiser les prêts, le voyage des œuvres et tout ça, ça prend du temps. Et ce ne sera peut-être pas une exposition aussi importante que celle de 2006, hein, puisque celle-là, ça avait été la grande exposition qui avait attiré plus de 450 000 visiteurs, dont énormément venus de la France entière et de l'étranger, et pas simplement de la région, parce que bon, il faut faire attention maintenant, il y a des contraintes budgétaires plus importantes, il y a des problèmes environnementaux, on peut pas faire promener les œuvres comme ça, affréter un jet privé pour faire venir une œuvre, c'est plus possible. Donc, mais on compte quand même sur 80 et 100 œuvres. Alors tout ça, c'est en 2025, et ça préfigure un ancrage très local pour ce peintre qui a un peu été laissé de côté par les Aixois.
2025, on aura le temps d'en reparler, le grand retour de Cézanne à Aix-en-Provence. Valérie de Marniac, vous aimez nous faire découvrir des petits lieux et autres musées méconnus de la ville de Paris. Alors cette fois-ci, direction le 7e arrondissement, arrondissement prestigieux avec la prestigieuse rue de Grenelle. Et cette rue de Grenelle abrite le musée Mayol. Alors Mayol, les auditeurs le connaissent pas forcément, c'est un peintre sculpteur de la première moitié du XXe siècle. Il y a une maison musée qui lui est consacrée. Avant de parler de l'artiste qui est exposé en ce moment, peut-être un mot sur ce lieu.
En fait, il a été créé par sa muse et collaboratrice qui s'appelle Dina Virny et qui, après la mort d'Aristide Mayol, a voulu lui consacrer un lieu et rassembler tout. Donc, c'était un sculpteur avant tout. Donc, il y a quelques sculptures, mais qu'on peut voir ailleurs dans Paris. Et puis, sinon, des dessins, des estampes, voilà. Et il y a un espace exposition. Il y a toujours des expositions temporaires vraiment très intéressantes. Donc, on peut y retourner.
Et actuellement, on peut découvrir le travail d'Eliot Erwitt au musée Mayol. Eliot Erwitt, c'est un photographe. Alors, a priori, on ne sait pas trop qui c'est, mais vous allez nous décrire une photo qui est célébrissime. Et si vous la décrivez, je pense que tout de suite, les auditeurs verront de quoi on parle.
Alors, si on pense à la même,
alors,
Stéphanie.
Allez-y, on verra.
Mais j'ai découvert dans l'exposition, parce que comme vous, je n'étais pas très,
très
au fait d'Elliot Hermite, qui est quand même un immense photographe, hein, maintenant je le sais. Pour moi, c'est la photo de Marilyn.
Alors, il y a celle-ci. Moi, j'ai pensé à une autre. Moi, je pensais à celle des, avec la, cette dame où on voit que ses pieds et il y a les photos.
Ça, c'est la photo de l'affiche.
La photo, les pieds du petit chien et les pieds du gros chien.
Alors, pour moi, la plus célèbre, donc c'est, si vous devez l'avoir en tête, c'est Marilyn sur une grille de bouche de métro en train de retenir sa robe qui s'envole avec l'air. Parce qu'en fait, il faisait partie de l'agence Magnum. Il est moins connu que son fondateur Robert Capa. Mais c'est Magnum qui a inventé le principe des photos de tournage, de plateau. Et en fait, Magnum envoyait ses photographes dans tous les tournages des studios hollywoodiens, des années 50, et ils prenaient des photos dans les temps de pause des acteurs où ils se détendaient, et ça donnait des photos, moi qui me faisais rêver, qu'on voyait dans les cinémas à l'époque, plutôt que des photogrammes issus tirés du film, on voyait ces photos-là. Et lui a capté Marilyn dans plusieurs films, et il y est retourné après pour Les Désaxés, qui est le dernier film de Marilyn, qui est aussi très émouvant, où on la voit du coup toujours dans l'exposition, hein, une photo où elle est très abandonnée, beaucoup plus, parce que celle de la bouche de métro, elle est déjà un peu jouée, quoi. Donc voilà, donc ça c'est une partie. Dans l'exposition, en fait, il y a une petite partie qui sont ces photographies de professionnels, donc qui sont des photographies de commande. Enfin, voilà, il a été photoreporter, photojournaliste, publicitaire, photographe de mode, mais c'est une petite partie, ça. Ces photos-là sont plutôt en couleur. Il avait toujours deux appareils, un noir et blanc, un couleur, et tout son travail personnel, qui est la majeure partie de l'exposition, et en tout, il y a 250 photos qui sont toutes plus sublimes les unes que les autres, c'est du noir et blanc. Alors, celle dont vous parlez, il est effectivement très connu. Alors, c'est pas mon préféré, mais
c'est une photo qui est plutôt drôle.
Le thème préféré, mais voilà. Alors ça, c'est sa marque de fabrique générale. Ces photos ont toujours expriment toujours un sentiment immédiat, à la fois sur un registre assez émotionnel, tendre souvent, un peu ironique, mais jamais cynique, plutôt drôle, effectivement. Il y a de l'humour, il y a du, voilà. Et il était passionné par les chiens, mais sérieusement. Mais comme il était drôle, il les humanisait avec humour. Donc il y a plein de photos, effectivement. Alors cette photo, je vais la décrire.
Oui.
Donc on voit un petit chihuahua en gros plan qui nous regarde, l'air un peu perplexe avec son petit bonnet, son petit manteau tricoté. Et puis à côté, vous avez à première vue quatre jambes en gros plan. Et quand vous regardez de près, en fait, il y a les deux jambes qui sont sa maîtresse, qui doit le tenir en laisse avec ses deux bottes. Et à côté, deux pattes avant d'un énorme chien qu'on imagine, un Doberman ou quelque chose comme ça. Et tout ça cohabite de manière avec un effet assez, assez amusant. Mais il y a d'autres photos plus, peut-être moins légères. Il était quand même, pour lui, une photo était bonne quand elle exprimait ce que je disais, mais immédiatement une émotion, et surtout quand elle faisait à la fois rire et pleurer. Et pour lui, sa préférée qui est montrée dans l'émission, c'est une photographie qui a été prise en 1950 en Pennsylvanie. On voit un jeune garçon noir qui est hilar avec une bonne bouille devant un arbre et qui nous fixe du regard en pointant un revolver sur sa tempe. Et c'est vrai que cette photo, il n'y a rien à en dire, mais on se dit, voilà, est-ce que c'est un jeu? Est-ce que c'est un défi? Est-ce que c'est nous qui défie? Enfin, il y a beaucoup de choses qui passent dans ces photos, et toutes ces photos sont comme ça. Donc c'est vraiment un artiste qu'il faut aller découvrir. Alors l'exposition est organisée de manière thématique, ça reprend un peu les titres des livres qu'il a édités par ailleurs. Il y a un très beau livre qui s'appelle Regarding Women, qu'on peut traduire en français de deux manières, soit à propos des femmes ou en regardant les femmes. C'est un des thèmes qui le rapproche de Mayol. Mayol a fait beaucoup de nus féminins, sculptures et dessins, et ça c'est le dernier étage de l'exposition, et c'est très bien fait. Ils ont en fait alterner des œuvres des deux artistes. Et du coup, il y a des photos de... c'est assez drôle aussi, d'ailleurs. Il y a des photos d'Hermit. Il a fait des photos, pas mal de photos de nudistes. Ça, il trouvait ça intéressant. Elles sont assez belles. Donc, alterner avec les sculptures. Et puis, il y a une photo qui les réunit vraiment. C'est une jeune femme blonde qui prend la pose d'une statue de Mayol qui s'appelle La baigneuse au bras levé, qu'on peut voir d'ailleurs dans le jardin du carrousel aux Tuileries.
Voilà, Elliot Hermit chez Mayol, c'est jusqu'à la mi-août, alors profitez-en. Et ben voilà, c'est la fin de cette émission Effervescence et le temps des remerciements. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Et puis merci aux chroniqueurs qui rendent cette émission possible. Valérie de Marniac était avec nous. Il y avait aussi Michel Tadelli et François Huguenin. Et bien sûr, pour rendre cette émission accessible à vos oreilles, il y a la magie de Pierre Samanos à la réalisation. On ne se quitte pas sans une citation. Elle est d'un voyageur dont on n'a pas parlé. Stevenson. Vous savez, il voyage avec mon âne dans les Cévennes, Louis Stevenson. En vérité, je ne voyage pas, moi, pour atteindre un endroit précis, mais pour marcher. Simple plaisir de voyager. Très très bon week-end à tous.